À Paray-le-Monial, en Bourgogne, Jésus a montré son cœur à une sœur, Sainte Marguerite Marie, à la Coque, et lui a dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Aussi aujourd'hui, nous fêtons la fête de la Divine Miséricorde. C'est une fête qui embrase, qui est universelle, qui embrase le monde entier, car Dieu aime infiniment chacun, les bons comme les méchants. Et cette fête a été demandée par une sainte, Sainte Faustine Kowalska, et c'est le pape Saint Jean-Paul II qui l'a institué. En effet, il y a une urgence spirituelle. Nous rendons grâce pour les soignants qui soignent les corps. Mais nous ne sommes pas qu'un corps. Et le premier remède pour nos personnes, c'est la miséricorde divine qui s'incarne dans le pardon entre Dieu et nous. Sinon, nous serions condamnés à une tristesse intérieure. Et j'aimerais parler aussi un peu de la miséricorde à travers la figure de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que vous connaissez, Sainte Thérèse de Lisieux. Cette grande sainte en est un peu le chantre. D'ailleurs, elle commence son manuscrit A, elle a écrit l'histoire d'une âme à la demande de ses supérieurs. Elle commence par les miséricordes du Seigneur. Et elle compare avec les fleurs, elle dit dans le jardin de Dieu, il y a des grandes roses, il y a des lys. Mais il y a aussi des petites violettes avec leur parfum et des pâquerettes. Et au fond, si une d'entre elles venait à manquer, il manquerait quelque chose au jardin de Dieu. Et elle dit au fond, dans l'Église, il y a des grands saints, des docteurs, des gens très connus, puis il y a plein de saints inconnus, des petits saints, pourrait-elle dire. Et elle dit heureusement, parce que s'il n'y avait que des grands, au fond, Dieu ne se serait pas penché aussi bas pour nous. Et elle dit, ma confiance, c'est que comme je suis petite, eh bien Dieu se penche jusqu'à moi. Alors, je vais commencer par un petit mot sur nos textes liturgiques de ce jour. On a écouté les Actes des Apôtres, on a écouté Saint Paul et puis Saint Jean dans l'Évangile. D'abord, ils sont remplis de joie fraternelle. Et ça, c'est vraiment important pour cette fête de la miséricorde. Les Actes parlent de cette vie fraternelle, de la façon de la vivre avec des prières, avec la fraction du pain. Il parle de tout mettre en commun, de partager les ressources d'ailleurs, de louer Dieu, de prendre son repas avec allégresse. Bref, cela décrit une grande et une très belle vie communautaire chrétienne. Et au fond, ce passage est en quelque sorte fondateur pour la vie d'église domestique que chacun vit à la maison, soit seul malheureusement, ou en tout cas relié à quelques amis par le téléphone, les moyens de réseau, mais ceux qui sont en famille ou à quelques-uns, voilà, ils le vivent ensemble, cette idée d'une église familiale, domestique, avec Jésus, à l'écoute de la parole, même jusqu'au lavement des pieds que certains ont vécu le jeudi saint. La lettre qu'on a écoutée aussi ajoute un surcroît de joie surnaturelle. J'ai dit Saint Paul, mais c'est Saint Pierre qui l'a écrite, et il parle d'une vivante espérance. Et du coup, c'est quoi cette vivante espérance? C'est l'héritage que nous avons aux cieux et qui nous appelle à une exultation de joie. Pourquoi? Parce que, dit-il, nos âmes ont reçu le salut par la victoire de Jésus. On voit avec ces textes qu'au fond, il ne parle pas du mal qu'il faudrait ôter de nos vies, ni du péché. Il parle de joie. Il parle de miséricorde comme un don gratuit, une grâce qui nous fait participer à la joie du ciel. Et dans l'évangile de Saint Jean, Jean a deux chapitres sur la résurrection, et il décrit ce moment où Jésus va venir parmi les apôtres réunis au Cénacle, le premier soir, et puis 8 jours après à nouveau. Et là, il vient en disant « La paix soit avec vous ». Une belle parole de salutation. Il souffle sur eux, il donne son Esprit Saint et il les envoie vers toutes les nations. Donc c'est le début de ce grand mouvement vers l'extérieur de l'Église. Mais il y a Thomas. Thomas est absent le premier soir et quand on lui dit que Jésus est apparu, il ne le croit pas. Il veut toucher. Et le second rendez-vous, 8 jours après, Thomas est là. Jésus vient et dit à Thomas « Voilà, mets ta main dans mon côté, touche mes plaies. Ne sois pas incrédule. » Et Thomas, alors, dans cette belle humanité un peu directe de Thomas, à ce cri merveilleux, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà cette belle affirmation de Thomas. Et donc la joie, c'est la porte de la miséricorde. Celle-ci conduit à la joie. C'est comme un cercle vertueux. La joie ouvre à la miséricorde donne la joie. Et si nous nous plongeons dans la miséricorde de Dieu, eh bien rien ne pourra nous manquer. Une question que je me suis posée pour vous en parler un peu, c'est est-ce que notre société peut être touchée par la miséricorde? On voit actuellement avec le virus que la maladie et la mort placent l'homme devant la fragilité de la condition humaine. La société de consommation voulait nous convaincre que la possession des biens apporterait le bonheur, mais l'expérience, cette finitude de la mort ou de la possibilité de la mort, eh bien, change tout. Nous avons besoin de fraternité et d'humanité. Nous avons besoin de relations. Or, celles-ci sont fragiles parce qu'elles sont souvent blessées. Il y a donc un besoin incroyable de miséricorde. Mais certaines personnes ne connaissent pas ce mot. Il y a misère dedans, il y a corda, le cœur. C'est le cœur de Dieu qui se penche sur la misère des hommes. Et le pardon, c'est l'acte concret par lequel la miséricorde prend forme entre Dieu et nous, mais aussi entre nous. Alors nous, membres de l'Église, nous ne prétendons pas changer la société. Le Christ n'a pas dit qu'il voulait changer l'Empire romain, d'ailleurs. Mais nous voyons la puissance de l'amour qui peut bouleverser les relations humaines, rapprocher ceux et celles qui ne se parlaient plus, apporter la paix entre les nations. Demeure une question pour la société, c'est quelle place existe pour le pardon? La société civile peut-elle pardonner? Et nous-mêmes, sommes-nous disposés au pardon? Peut-être pas tant que cela. L'État, par exemple, vient de libérer 6000 prisonniers de prison qui étaient presque en fin de peine parce que le confinement était dangereux pour eux. Eh bien, beaucoup pensent, et même des catholiques, j'en ai eu l'écho, qu'ils auraient dû rester en prison. Ceux qui pensent ça se plaignent de 8 semaines de confinement. Parfois c'est difficile, parfois ils ont une jolie maison et un jardin. Avons-nous pensé au confinement que vivent ces prisonniers pendant plusieurs années dans une cellule petite, surpeuplée? Or, saint Paul dit que Jésus est venu proclamer la délivrance des prisonniers. Quelle miséricorde pour ces prisonniers! Nous fêtons aujourd'hui la miséricorde divine. Ça veut dire que nous l'appelons sur nous, sur les autres, sur la société. Personne n'est capable de la recevoir pleinement sans Dieu. Seul Dieu peut pardonner. Sans lui, au fond, c'est trop dur. Même le Christ en croix s'adresse au Père quand son humanité est anéantie par tant de violence pour dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Force est de constater que la société des hommes ne pardonne pas. D'ailleurs, le peut-elle? Même un président qui gracie un coupable le dispense de la peine, mais ne lui pardonne pas. Seule la personne offensée peut pardonner, si cela lui est possible. Personne ne peut pardonner à la place d'une victime. Personne ne peut exiger d'une victime qu'elle pardonne. Mais nous pourrions désirer voir célébrer le pardon au sein de la société civile. Mais elle est impuissante, car seul Dieu pardonne. Le pardon est le propre de Dieu. Cela semble pour certains être un acte de faiblesse. Or, c'est l'expérience ultime de la puissance de Dieu parce qu'il est amour. Oui, le pardon est l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme. Le pardon, c'est le don au-delà de l'offense. Ce don est magnifique, mais il dépasse la raison parce qu'il ne calcule pas. Le pardon se donne sans mesure et sans condition. C'est justement l'œuvre de la miséricorde dans le cœur humain qui peu à peu opère une guérison jusqu'à la possibilité du pardon donné ou d'un pardon demandé, mais souvent il faudra du temps. Sans pardon, nous resterons malheureux, ankylosés dans un passé que nous avons l'art de ruminer. Or, nous sommes créés à l'image de Dieu. Certes, le mal a brisé l'image, mais toute notre vie est en tension pour cheminer vers cette image perdue à cause du mal commis. Le chemin, c'est le pardon vécu entre les personnes pour renouer leur relation, mais aussi avec Dieu par le sacrement du pardon, pour reprendre sa place de fils, de fille dans la maison commune qu'est l'Église. Alors la joie peut revenir. Et la joie divine, elle nous dispose à vivre dans la confiance. Et c'est l'expérience de Sainte Thérèse de Lisieux dont je voudrais vous parler pour conclure. Voici une sainte qui naît et grandit à la fin du XIXe siècle, dans une époque difficile parce qu'elle est marquée par la justice de Dieu et la peur du jugement dernier. On est à l'époque du jansénisme, c'est-à-dire que l'on doute quant à la liberté et la capacité de l'homme à faire le bien. Alors il faut s'amender, il faut faire pénitence. Et que fait Thérèse ? Elle répond par la confiance. Elle dira « C'est la confiance, rien que la confiance, qui conduit à l'amour. » Elle dit qu'elle est un peu comme un petit enfant qui aimerait monter un escalier en haut duquel elle sait qu'il y a le papa. Et en même temps, elle pose un pied, l'enfant pose un pied, et n'arrive pas à franchir les marches. Et pourtant, elle dit, si l'enfant continue à essayer de monter l'escalier, le papa finira par descendre lui-même pour venir la prendre dans ses bras et lui faire monter l'escalier. Par contre, si l'enfant s'en va, eh bien le père la laissera. Alors elle trouve l'image de l'ascenseur qu'on commence à installer dans les immeubles modernes. Et elle dit, Seigneur, tes bras seront mon ascenseur pour monter le grand escalier vers ton cœur. Et sa vie brève, elle va mourir à 24 ans, elle la passe dans cette découverte de l'amour. Elle dira, je ne peux pas craindre un Dieu qui s'est fait si petit, je l'aime. Elle déclare souvent son amour pour Jésus. Comment pourrait-il lui refuser sa grâce ? Elle va jusqu'à dire à la fin de sa vie à sa sœur Pauline, qui est sœur avec elle, « Dites bien, ma mère, que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. » Cette confiance en Dieu, cette assurance envers l'infinie miséricorde de Dieu, elle l'applique dans sa relation avec les autres, c'est-à-dire les sœurs du Carmel. La plus petite occasion, comme ramasser une épingle, devient une grâce pour elle, un acte d'amour gratuit et invisible, un sacrifice d'amour. Elle dira « Je comprends maintenant que la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on les voit pratiquer. » Ainsi, son désir de sainteté ne plonge pas dans des pénitences extrêmes, mais dans les bras de Jésus, son bien-aimé. Et elle dira encore, « La sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique, elle consiste en la disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiant jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. » Finalement, elle sait qu'elle va mourir, elle s'y dispose en disant « J'irai, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. » Et elle dira ultimement « Je ne me repens pas de m'être livré à l'amour. Je l'aime, mon Dieu, je vous aime. » Voilà, cette fête de la miséricorde est une grâce extraordinaire. Elle a ouvert un chemin nouveau de vie. Mais cela est très sérieux pour que nous vivions en paix en attendant la bienheureuse espérance, c'est-à-dire le ciel. Par cette fête, c'est le ciel qui descend jusqu'à nous. Que nous ressemblions à une grande rose, à un lys ou à une petite violette, nous avons chacun notre place dans le cœur de Jésus. Vivons donc de la miséricorde et notre société sera transformée par l'odeur suave de l'amour et du pardon. L'amour est contagieux quand deux êtres s'aiment profondément. C'est déjà le cas entre Jésus et chacun de nous. Reste à l'incarner entre nous par notre vie fraternelle, à l'image de ces premiers chrétiens. Amen.